aujourd'hui, donc en ouverture d'émission, place à une entrevue spéciale organisée la veille d'un événement qui aura lieu demain à Vox et qui réunira les artistes chercheurs de l'exposition Étant donné, une exposition réalisée en collaboration avec le groupe de recherche Action, le groupe de recherche Création, pardon, nommé Au-delà des images opératoires. Alors, l'événement de demain consiste en une lecture publique et une visite commentée de cette exposition. Alors, Jean Dubois, vraiment artiste et chercheur dans la méthodologie de la recherche-création, eh bien, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques, évidemment commissaire de l'exposition spéciale à Vox, et c'est rare que nous avons ce genre d'exposition à Vox, et un des artistes de l'exposition, et une des artistes de l'exposition, Caroline Bernard, hein, du collectif d'art contemporain Lily Range le Chat, alors c'est un nom très original, basé en France et en Suisse depuis plus de 10 ans, donc un collectif vraiment, je pense, de passage à Montréal, bienvenue, et qui fort inspiré par le voyage, l'exploration du territoire. Elle enseigne depuis 2007 en Europe et est assignée à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Alors, c'est toute une démarche qui est proposée à Vox jusqu'au 30 juin. Et demain, bien sûr, il y a une rencontre spéciale qui va vous éclairer sur les recherches de ces nombreux participants à l'exposition. Alors, bienvenue, Jean Dubois.
Merci.
Merci.
Caroline.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, le...
Damien Guichard.
Damien Guichard, qui fait partie de Lily Range les Chats. Alors, tout d'abord, félicitations, j'ai été vraiment absolument fascinée et intriguée par cette exposition-là. De là, mon souhait de vous inviter au magazine Radio de Situ. Tout d'abord, peut-être nous expliquer le titre pour le bénéfice de l'auditoire, qu'est-ce qu'une image opératoire et en quoi vous voulez aller au-delà de l'image opératoire?
Donc, le terme d'image opératoire a été mis de l'avant par un cinéaste célèbre allemand qui s'appelle Harun Faruqi, qui abordait des images, un nouveau type d'image, notamment en s'inspirant des images que les drones prenaient pour s'aider à se guider. Donc, des images qui n'étaient pas destinées aux humains, mais des images destinées aux machines.
Oh!
Donc,
qui ont été détournées, je suppose.
Pas détournées. À l'époque, ce que lui voulait montrer, c'est que les machines, maintenant, il y a des régimes d'images qui sont destinés aux machines pour qu'elles puissent prendre des décisions, notamment de pilotage. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ces images-là font partie de systèmes d'intelligence artificielle, prennent d'autres types de décisions. Nous, on s'est dit, bon, c'est sûr qu'on ne voulait pas se limiter à cette idée-là. On voulait démarrer une recherche à partir de ce concept apporté par le cinéaste.
Oh, c'est donc, intéressant.
Au début des années 2000. Donc, 20 ans plus tard, comment la subjectivité artistique est-elle influencée par la présence de ce type d'image ou par justement l'anxiété causée par ces images? Aujourd'hui, on apprend que nos images sont analysées sur Facebook par les engins d'intelligence artificielle. Donc, il y a toute une industrie de l'analyse d'images aujourd'hui qui existe et qui n'est pas tellement connue des gens. Donc, en tant qu'artiste, on s'était dit, on va démarrer une réflexion sur l'image par la pratique. Donc, vous avez dit recherche-action, c'est vrai, mais la recherche-création est un type de recherche-action qui s'exprime dans la fabrication d'œuvres d'art. Donc, c'est une démarche qu'on a démarrée à partir de ce concept-là, mais qui a évolué, d'où le mot « au-delà ».
Merci. Je pense avoir dit recherche-action alors que je voulais dire recherche-création.
C'est pas faux.
Mais c'est vraiment très lié. Non,
je pense qu'on va l'adopter, en fait. Je crois que ça me plaît plus, en fait.
Alors, c'est à ce moment-là, ces interrogations, ce questionnement est un questionnement vers lequel convergent tous les artistes réunis dans cette exposition-là. Est-ce que c'est bien le cas?
Oui, en effet, il y a le fait aussi que, à titre personnel, moi j'enseigne à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles et que nous-mêmes on mène des activités de recherche et de création dans ce cadre des images opératoires, dans une école dédiée à la photographie. Et puis ici, effectivement, en tant qu'artiste, on était assez habité par la pensée de Faruqi, soit dans le fait de créer, de regarder ces images telles qu'elles sont opérantes aujourd'hui dans ce monde, monde, soit dans le fait d'en créer nous-mêmes, soit dans le fait de faire image, c'est-à-dire de faire image à partir de données, ce qui est le cas du projet pour que nous exposons avec Damien Guichard dans le cadre de notre collectif Lily Range le Chat, à savoir que donc c'est un atlas qui est réalisé, une carte.
Magnifique.
Merci. Et une carte qui est sur une sorte de léporello, je ne sais pas si ça se dit au Québec, léporello.
Donc
voilà,
d'un livre avec des gains.
Voilà, d'un livre déplié de 17 mètres.
Wow.
Et cette carte, en fait, a été réalisée sur la base d'un enregistrement GPS de 12 000 km, qui a été ensuite remise dans un logiciel de géographie et de cartographie. Et le continent qui apparaît, c'est donc dans la limite du champ de vision qu'on a eu et de la courbure terrestre. Donc ça fait comme une espèce d'énorme ver de terre qui dit quel a été notre parcours, finalement, est-ce qu'on a vu. Donc c'est une carte de la mémoire. Avant d'être une vraie carte du territoire, c'est une carte qui garde l'empreinte du processus de sa fabrication. Voilà. Et l'idée dans ce travail-là aussi, c'est de rebaptiser les lieux comme un peu des colons, c'est-à-dire au fur et à mesure où on passe, c'est nous-mêmes qui rebaptisons des lieux et qui, de ce fait, on se trouve aussi dans à la fois une démarche de cartographe, mais aussi de poète, puisque c'est l'occasion de redéfinir ces lieux, de leur donner corps une nouvelle fois et d'identifier un territoire à travers son propre soi.
Et de vous approprier ce territoire.
Exactement.
À travers votre vécu, votre expérience, votre technologie.
Et puis il y a une métaphore pour nous qui compte, parce qu'on est quand même une génération liée aux réseaux sociaux, etc.
Absolument,
c'est que c'est une métaphore du solipsisme en philosophie, à savoir l'impression qu'au-delà de soi, rien n'existe. Et donc finalement, ce projet s'appelle Pangée. Pangée, c'est quand tous les continents étaient réunis. On a un seul continent. Merci. Pangée, l'atlas de l'effondrement. Oui. Puisque en fait, ça parle du fait qu'au-delà de son propre champ de vision, tout est effondré et sous l'eau. Et rien n'existe. Donc c'est aussi une métaphore de cette individualité au monde qui n'a pas toujours conscience du reste.
Oui. Voilà. Et donc c'est vraiment une œuvre à la fois poétique et très ambitieuse.
Mais le très ambitieux, c'est très souvent qu'avec Damien on se retrouve face à une masse de données dont on finit par faire des démonstrations plutôt que de pouvoir aboutir réellement à un objet, parce qu'effectivement on se retrouve avec des milliers d'heures d'enregistrement ou ce genre de choses, mais c'est aussi à l'image et à l'échelle d'un des enjeux de l'exposition, à savoir la représentation de données. Aujourd'hui, on le sait, les machines, les caméras, les réseaux, les téléphones, les ordinateurs, etc., récoltent de la donnée.
Oui.
Et puis
à n'en plus finir. Oui.
On ne sait pas trop pourquoi, en surdose, sans savoir très bien. Mais à un moment donné, quand on doit restituer, on doit donner une forme à ça. Nous, c'était la réponse à notre histoire, c'était de la cartographie, mais il y a d'autres projets qui partent de ça et qui ont d'autres formes de restitution artistique.
En tout cas, ça nous transporte dans un imaginaire là, vraiment tout autre. Ça nous fait rêver, ça nous fait voler, faire un survol. Vraiment, alors on va, je pense, passer en musique dans les médias avant qu'on poursuive, parce qu'on va poser quelques questions à Jean Dubois. Et on va écouter, vraiment, je pense que vous connaissez Jean Dubois, on va écouter Manuel Chantre et une de ses œuvres qu'il a composées, qui est un artiste numérique qui fait dans la composition. C'est une de ses œuvres que je fais jouer souvent à l'émission Mémotion. Alors, on va poursuivre maintenant avec l'œuvre de Jean Dubois. L'œuvre de Jean Dubois qui est vraiment aussi fascinante et vraiment inspirée du cinéma, hein, je croirais.
Oui, mais je dirais même du théâtre mis en cinéma.
Oui, certains théâtres. Oui. Lesquels? Beckett, je crois?
Le travail avait été inspiré par Beckett dans deux phases. C'est un travail qui... Le travail de Beckett, c'est un travail méthodologique. Souvent, dans le Cap au Pire, c'est une réflexion sur sa propre écriture. On connaît Beckett, son univers qui peut être assez, rigoureux. Donc, je me suis posé la question, on connaît un peu le travail artistique, des fois, on a des flashs. Je me m'étais posé la question, mais qu'est-ce qui aurait l'air d'un selfie fait par Beckett?
Oui.
Donc, ce qu'on voit, c'est un personnage qui est enfermé dans un monde vide, apparemment théâtral, mais qui est sans limite, qui est seul, qui contrôle un drone qui le filme lui-même, et on comprend assez rapidement qu'il est destiné à se selfiser pour l'éternité.
Donc, un véritable enfer qui est représenté dans cette installation vidéo.
Oui, mais on parle du solipsisme, c'est le côté, peut-être pénible du solipsisme, donc être condamné à son autoréflexion. Donc il y avait cette idée. On voit aussi, au niveau technique, c'est un film qui joue en boucle, mais dont le code temporel est affiché à l'écran, mais avec le temps présent, la date d'aujourd'hui, les secondes d'aujourd'hui, et ces dates-là ne sont pas affichées normalement sous une ligne, mais flottées autour du personnage et l'accompagne dans ses pérégrinations dans l'écran. Donc, il y a à la fois film et à la fois animation générée en temps réel, et ça danse ensemble dans l'image.
Alors,
et ça révèle un peu une atmosphère beckettienne de mon point de vue, mais on peut voir autre chose naturellement. Là.
Et ça fait suite à tout un processus, parce qu'au départ, vous vouliez vraiment faire quelque chose de très proche de l'œuvre de Beckett. Hein? J'ai un petit peu écouté votre table ronde qui a eu lieu en novembre. Dans le fond, votre exposition, c'est l'aboutissement de tout un processus à Vox. Hein? Il y a eu une table ronde en novembre dernier.
Entre autres.
Vous avez exposé que vous vouliez vraiment vous inspirer directement de Beckett, mais finalement, vous avez changé.
Non, j'avais intégré le texte de Beckett, mais avec le temps, on s'est dit que c'était pas nécessaire.
Ouais.
Et on a comme épuré la pièce. On a remplacé les sous-titres tirés directement du texte. On l'a remplacé par autre chose, par le code temporel, justement, qui s'articule autour du personnage. Mais en même temps, bon, le processus c'est un processus collectif. Donc là, on parle d'œuvres singulières, mais le but du groupe, c'était d'entrechoquer des visions subjectives qui allaient aboutir dans la fabrication d'œuvres, mais aussi d'activités de diffusion artistique. Donc, au moins de l'exposition, il y a au moins 2 années de rencontres, de lectures, de résidence de création.
Résidence de création à Vox spécipiquement?
Et Vox n'est qu'une étape.
Qu'une étape.
Donc, on est à mi-chemin dans notre programme de recherche-création.
Et c'est quelque chose.
Donc, les œuvres sont des éléments expérimentaux.
Oui.
C'est pas l'aboutissement absolu de la recherche, mais c'est des rendus, des instantanés de la pensée en mouvement des artistes. Donc, les œuvres vont évoluer.
Ouais.
C'est souvent des œuvres des deuxièmes versions. Il pourrait y avoir d'autres versions subséquentes. Il pourrait y avoir d'autres agencements de l'exposition.
Ouais.
Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est à géométrie variable.
Oui, et c'est une exposition qui est mouvante, qui va...
Éventuellement, si elle est reprise...
Destinée à évoluer.
Elle pourrait évoluer, les œuvres pourraient évoluer. Mm-hmm. Ce qu'on appelle des œuvres, parce que nous, on appelle ça souvent des propositions, des contributions. Mais ça pourrait évoluer.
Et l'objectif de ce groupe de recherche à création, Caroline Bernard, l'objectif de ce groupe?
Oui. À un moment donné, il y a l'aspect...
L'objectif premier, disons.
Oui, le premier objectif, est, évidemment, l'objectif d'un groupe de recherche, c'est de problématiser, hein, de poser des questions. Quelle est notre question? Donc, on a déjà trouvé un ensemble de questions communes autour de ces images opératoires qui sont...
C'est vraiment votre objectif premier, OK.
Oui, vraiment, dans le sens où, la question de Farocchi, c'est que sont ces images qui sont plus que l'apparence visuelle des choses et qui sont là au-delà de leur fonction de représentation, mais qui sont là pour accompagner des gestes techniques
qui ont une fonction anthropologique.
Exactement, ou pour susciter de la donnée, en fait. Donc, ça, c'est des questions communes. Après, nous, dans les processus de travail, comme on est des artistes, nos problématiques passent par la mise en forme,
c'est sûr.
Et principalement. Donc, effectivement, l'objectif du projet, c'est quand même de durer encore 2 ans et avec un retour en France dans une proposition qui ne s'arrête pas là, ce qui est à Vox, mais qui est en mouvement. Et en mouvement par rapport à ce qui bouge aussi dans le monde actuellement. Donc, c'est être très ancré dans l'aspect contemporain.
Et les œuvres sont toutes d'une grande esthétique. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une réflexion des plus approfondies pour apprécier la beauté de ces œuvres-là sur place. En tout cas, écoutez, si on aime les œuvres telles quelles à contempler, on est ravis, on est contentés. Donc, ça, aujourd'hui, on échange, mais c'est un aperçu de ce que vous avez proposé comme réflexion, comme demain, cet événement spécial d'une lecture publique.
Demain. On est à mi-parcours pour l'exposition.
Oui.
On a profité du passage de Caroline pour relancer l'exposition.
Oui.
On va débuter à 5h30 avec une lecture d'un extrait de Pangé.
Oui.
On fait une visite avec les artistes des contributions, propositions. Et par la suite, à 19h, on sort à l'extérieur et on a une première. On va avoir le lancement des infiltrations graphiques dans les passerelles vidéo du 2-22. Donc, il y a deux membres de Alexandre Castonguay et Nance Bortuzzo qui vont présenter des œuvres sur les passerelles. Mais on n'en dit pas plus. On veut laisser la surprise pour demain soir.
Mais tout de même, on pourrait faire un petit survol des autres artistes parce que j'ai voulu un petit peu plus approfondir avec vous. Hein? Lily Range Le Chat, un duo. D'ailleurs, je ne sais pas si votre partenaire souhaite ajouter quelque chose à cette description.
Caroline, les gens se débrouillent très bien.
Mais peut-être qu'on pourrait faire un survol là, du monde des autres participants, dont un artiste vedette, Alexandre Gastonguay. Hein? C'est une vedette en art numérique.
Alexandre est co-directeur avec moi et Caroline.
Oui.
Alexandre présente ce qu'on a appelé la table des matières, c'est-à-dire, il propose une vitrine à l'intérieur de l'exposition où des éléments de recherche qui ont été, disons, abandonnés ou laissés, des résidus de recherche,
on appelle ça les résidus. Artefacts quasiment.
Oui, mais c'est comme des
pistes
qui ont été suivies, mais aussi des morceaux de pistes qui ont été suivis, qui sont présentés comme des artefacts, on dirait presque anthropologiques, mais des résidus de recherche.
Ah oui,
on n'a pas l'habitude de voir ça.
C'est original.
Et aussi, il présente dans la même vitrine des documents concernant une forme d'art qu'il appelle une forme d'activiste tranquille, où il met en scène des dîners artistiques avec des couverts que lui-même crée à partir de données, donc des assiettes qui ont été formées à partir des données climatiques de 1850 à aujourd'hui. Et on peut manger sur les changements climatiques carrément, avec une gastronomie qui est vegan. Et dans la serre de l'Université Concordia, sur le toit d'un de leurs pavillons. Donc, c'est une œuvre événement qui est documentée dans la vitrine également.
Qui
a eu lieu et on peut voir.
OK, parfait. Et on sait à quel point Alexandre Castonguay est engagé.
Oui, c'est un artiste très engagé.
Environnemental.
Entre autres.
Oui.
Et tout près de lui, une autre œuvre assez critique de Nance Bortuzzo qui a mis la main sur des données de 600 000 usagers d'Internet.
Oh, my, c'est quelque chose.
A en main toute leur navigation, tout leur choix, leur requête de navigation, et ils créent des œuvres à partir des requêtes de navigation de ces gens-là. Donc, vous allez pouvoir voir l'inconscient d'Internet à l'œuvre. Oh, oui, c'est. Il a filtré les choses les plus choquantes. Donc, on peut voir ce que j'appelle l'inconscient d'Internet à l'œuvre.
Oui.
Dans une autre salle, on a un rapport beaucoup plus intime avec Guillaume Bourdon qui va méticuleusement enregistrer ses battements de cœur avec une montre intelligente et recréer sous forme d'un calendrier à l'aide d'un robot traceur ses états d'âme quotidiens. Donc, on voit vraiment évoluer ses moments d'anxiété et de repos illustrés sous forme de fiches qu'il ajoute à mesure que l'exposition avance dans le temps. On va voir l'évolution de ses humeurs.
C'est un tout autre rapport à la technologie. Hein?
Exactement.
Très organique cette fois-ci.
Beaucoup plus intime.
Oui.
On a aussi une œuvre de Thomas Ouellet-Frédéric qui nous capte avec une caméra intelligente qui analyse l'image et qui nous projette à l'intérieur de l'exposition au moment même où on voit à travers la vitrine de Vox les premiers indices, nous-mêmes, on est aspirés par la caméra et injectés dans l'exposition. Donc, un regard sur la surveillance, sur les systèmes d'intelligence artificielle, de vision artificielle.
C'est intéressant.
Il met ça en scène.
Assez percutant.
Aussi, on a une carte territoire de Alice Jarry qui a compressé un paysage qui est composé, en fait, de relevés topographiques, de données et d'images de mines de sable en Amérique du Nord. Elle a essayé de les condenser dans un même espace pour nous sensibiliser à l'impact de l'industrie minière sur le sable qui produit le verre, qui produit des composantes.
Et ça fait longtemps qu'elle travaille là-dessus, Alice.
Oui, parce que le sable, c'est la troisième ressource naturelle qu'on exploite.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un problème majeur environnemental. Donc, la consommation de verre produit énormément de déchets, où on le sait nous-mêmes, on les recycle, et c'est pas toujours bien recyclé. Elle analyse le cycle de la mine de sable jusqu'au recyclage final du verre. Et ça, c'est un aspect de sa recherche. Oui. On a aussi Guillaume.
Captivante œuvre centrale.
Elle aussi, comme Alexandre, elle a un point de vue très éco-responsable dans son travail. Et Guillaume Pascal, qui produit des extraits, à l'aide d'extraits de Google Street View, reproduit les parcours du caméraman qui fait les chantiers à pied et qui filme les zones qui sont en bordure de ce qu'on voit dans Google Street View.
Alors oui, et ça, c'était vraiment très amusant le soir du vernissage, le robot qui se promenait un peu partout là.
Oui, ça c'est une infiltration amicale de notre ami André Girard qui a créé un spectateur venant nous visiter pour nous faire un clin d'œil.
Alors, écoutez, il ne faut pas s'en tenir aux propos sur l'art numérique qui peut paraître aride. Il faut s'y rendre, c'est vraiment une exposition, je dirais, immersive, vraiment attractive et vraiment et qui nous intrigue, nous fascine. Voilà, c'est une recommandation. On va transmettre les informations factuelles. Donc, l'exposition étant donné, ça aussi, j'aurais voulu savoir, étant donné, ce que ça signifie, le titre étant donné.
Temps?
Oui, oui.
Bon, c'est un clin d'œil à la dernière œuvre de Marcel Duchamp.
Oui.
Il écrivait « donner oui. » E accent aigu. Nous, on l'écrit oui. « E accent aigu ES ». Donc, oui. « étant donné, les données, data oui. ». Donc, on faisait un peu, disons, un clin d'œil à ce qu'on appelle vaguement l'art conceptuel,
oui.
mais
on
voulait l'ancrer dans une pratique, une historicité artistique aussi.
Oh, c'était très intéressant. Alors, chaque mot, en tout cas, chaque œuvre a sa place et chaque mot est étudié. Voilà. Donc, c'est une exposition donc se poursuit jusqu'au 30 juin à Vox, vraiment. Et mais, bien sûr, demain, je vais vous laisser transmettre à nouveau l'invitation pour demain.
Demain, 5h30, oui. on commence à l'intérieur de la galerie. 19h, on va être un peu là avant. Il va y avoir le changement de l'œuvre de Nance Bortuzzo vers l'œuvre d'Alexandre Castonguet. Arrivé un peu avant 19h, on va être là probablement 15 minutes avant. On va regarder un peu l'œuvre de Nance et après, on va basculer à l'œuvre d'Alexandre vers 19h. Donc, vous allez avoir deux lancements demain soir et une rétrospective des points de vue des artistes dans l'exposition.
Alors, vraiment une recommandation et toute une soirée intense demain. Merci de votre participation au magazine Radio In Situ. Alors, à suivre.
Merci.